Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine en RDC. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre à quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons en ligne depuis Melbourne en Australie, Eric Mwamba, il est fondateur et responsable du magazine Grand Journal Intelligent. Bonjour Eric Mwamba.
Bonjour Guy Maté, bonjour tout le monde.
Madame Aimée Manyong n'est pas encore là, elle va nous rejoindre. Elle est coordonnatrice générale du réseau pour l'autonomisation de la femme REPAF en sigle. Elle est chef d'équipe au cadre des concertations de la société civile de la province du Lualaba. Et aussi en ligne depuis la ville de Lomé, capitale du Togo, Louis Magloire Kebayou, il est journaliste camerounais, il est écrivain et président du club de l'information africaine. Bonjour Louis Magloire Kebayou.
Bonjour Guy, bonjour tout le monde.
Merci à tout de suite pour la rétrospective de 7 jours d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours de 7 derniers jours de la semaine.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42-502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42-502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Nous sommes dans Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Eric Mwamba, qui est en ligne depuis Melbourne, en Australie. Eric Mwamba, il est fondateur et responsable du magazine Grand Journal Intelligent. Madame Aimée Manyong, coordonnatrice générale du réseau pour l'autonomisation de la femme REPAF en sigle, elle est chef d'équipe au cadre des concertations de la société civile de la province du Lualaba, et en ligne également depuis la ville de Lomé, capitale du Togo, Louis Magloire Kemayou, il est journaliste camerounais, il est écrivain et président du club de l'information africaine. 3 sujets au menu de cette émission, à savoir Félix Tshisekedi et Paul Kagame, se sont rencontrés mardi 18 mars à Doha dans le cadre des efforts visant à pacifier l'Est de la RDC. Le président français Emmanuel Macron a rencontré mercredi 19 mars à Paris les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO en sigle, ainsi que des pasteurs de l'Église du Christ au Congo, SCC, initiateurs du pacte social pour la paix et les biens vivre ensemble en RDC et dans la région de Grand Lac. Et enfin, rôle des citoyens dans la crise de l'Est, timide mobilisation des populations par le gouvernement de Mme Judith Suminwa Tuluka. Mais nous allons commencer par émettre un commentaire au sujet de la Journée internationale des forêts que le monde célèbre ce vendredi 21 mars. En effet, la Journée internationale des forêts qui a eu lieu la première fois le 21 mars 2013 a été établie par la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies le 28 novembre 2012. Elle sera célébrée chaque année le 21 mars. Cette journée est destinée à être l'une des plateformes mondiales des premiers plans dans le monde pour les personnes ayant un intérêt dans les forêts et les changements climatiques pour partager leurs points de vue et travailler ensemble pour assurer que les forêts soient convenablement intégrées dans des stratégies de changement climatique et d'atténuation, d'adaptation future. Eric Mwamba, que vous inspire la célébration de la Journée internationale des forêts?
Ah ben, Guimaté, moi je pense que beaucoup de gens pensent que la forêt c'est l'ensemble des arbres. C'est une erreur de conception. La forêt est un écosystème qui renferme plusieurs ressources telles que l'eau et d'autres espaces animaux et halieutiques. D'où quand vous regardez ce qui se passe dans d'autres pays, il y a des écoles spécialisées et même des facultés en foresterie, géographie ou même géomatique qui permettent une bonne gestion des forêts et même la création d'emplois et des opportunités d'affaires. Donc, en RDC, tout cela n'existe pas. Et pourtant, la RDC détient quand même plus de 60% des forêts du bassin du Congo. Donc, je pense qu'il est temps que la RDC pense, en tant qu'un pays qui dispose de ses ressources stratégiques, doit penser aussi à développer des connaissances stratégiques telles que ce que je viens de dire.
Merci, Louis Magloire Kebayou. Quel sens peut-on donner à cette journée au moment où les grandes puissances qu'on qualifie de grands pollueurs ne contribuent pas efficacement au financement climatique pour aider notamment les pays du Sud à s'engager dans la préservation de la forêt?
La célébration de cette journée nous rappelle tout le respect que nous devons avoir pour l'environnement, pour une raison simple, c'est que l'environnement, c'est la vie. S'il n'y avait pas les arbres pour filtrer, s'il n'y avait pas les végétaux pour filtrer, il serait impossible pour nous de respirer un air qui permet la vie. Et donc, si la nature nous permet de vivre, nous devons lui rendre cela en lui apportant le respect et en faisant en sorte que, même dans nos concessions, sur nos routes, qu'on ait des arbres, qu'on ait un environnement vert qui permet de vivre mieux. Et donc, au-delà de vendre nos billes de bois à l'étranger, au-delà de construire, de faire le tout béton, nous devons aussi songer à préserver la vie et à respecter l'environnement.
Oui, Louis Magloire, dès que la guerre de l'Ukraine avait commencé, on a vu beaucoup de pays recourir aux énergies fossiles. Est-ce que l'impératif de la croissance économique n'est pas en train de l'emporter sur l'impératif de la transition écologique?
Je pense que les deux ne sont pas incompatibles. On n'est pas obligé de détruire l'environnement pour gagner de l'argent. Je crois qu'on peut faire les deux, surtout que aujourd'hui, il y a des énergies qui ne sont pas forcément destructrices de l'environnement. Quand vous prenez l'énergie éolienne ou quand vous prenez l'énergie solaire, ce sont des énergies qui nous viennent de la nature et donc qui peuvent permettre de produire sans forcément détruire et notre environnement et notre cadre de vie.
Merci. On prend une petite pause en écoutant Zamba Zamba des frères Soki. On se retrouve juste après.
Zamba mokilingo ya nyama e.
C'était Zamba Zamba, chanson que les frères Soki avaient composée dans le cadre d'une campagne de sensibilisation sur la préservation de la forêt, une campagne initiée en 1973 par le président Mobutu Sese Seko. On revient à la qualité de cette semaine. Le président congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame se sont rencontrés mardi 18 mars à Doha au Qatar dans le cadre d'une réunion trilatérale organisée par l'émir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, comme l'a annoncé le ministère des Affaires étrangères du Qatar. Cette rencontre est la première entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame depuis l'escalade de la violence dans l'est de la RDC avec la prise des villes de Goma et de Bukavu par les rebelles du M23 soutenus par Kigali. Dans une déclaration, le ministère qatari des Affaires étrangères a précisé que les discussions entre les deux chefs d'État africains et l'émir ont porté sur la pacification de l'Est de la RDC. Les chefs d'État ont également salué les avancées des processus de Luanda et de Nairobi, ainsi que celles issues du sommet conjoint EAC-SADC tenu le 8 février 2025 à Dar es Salaam. Louis Magloire Kemayou, vous êtes journaliste et camerounais, vous êtes écrivain et président du Club de l'information africaine. Vous avez souhaité, n'est-ce pas, nous parler de cette rencontre à Doha entre le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame. On vous écoute.
J'ai choisi ce sujet pour une raison simple. C'est que c'est à la fois la promesse d'un avenir meilleur et aussi des interrogations sur beaucoup d'autres sujets. D'abord, la promesse, c'est que jusqu'à présent, on avait l'impression d'être dans une impasse, c'est-à-dire qu'aucun des interlocuteurs ne voulait se mettre autour de la table avec les autres. Les processus semblaient bloqués, que ce soit celui de Luanda, que celui conjoint de l'EAC et de la SADC, et même les médiations de l'Union africaine et d'autres médiateurs semblaient pédaler dans la semoule. Et là, d'un seul coup, alors que personne ne s'y attend, on se retrouve avec les deux leaders les plus importants qui sont en train de discuter de la situation entre leurs deux pays. On ne peut qu'être heureux et rempli d'espoir par rapport à l'avenir, puisqu'ils parlent de cesser le feu et qu'ils parlent de maintenir le fil du dialogue. Mais de l'autre côté, l'interrogation, elle est celle de savoir si c'est pas un feu de paille. Parce que mine de rien, alors qu'ils se retrouvent à Doha, on se demande bien où est l'Union africaine dans cette histoire, parce que c'est quand même à l'Union africaine de gérer ce genre de situation. Et malheureusement, la voix la moins entendue dans le règlement de ce conflit, qui est quand même l'un des plus vieux sur le continent, c'est celle de l'Union africaine. L'autre interrogation, c'est sur le moteur intérieur lui-même. On s'attendait à ce que le président Félix Tshisekedi arrive à fédérer autour de lui toute la classe politique, toute la classe sociale, toute la classe religieuse, bref, qu'il mobilise autour de lui la nation pour répondre face à la menace à laquelle le pays fait face. Et malheureusement, il y a eu cette déclaration concernant son prédécesseur, et puis on attend toujours de voir quand l'union sacrée va être créée avec les différents partis politiques qui existent sur le territoire national. Bon, voilà l'interprétation que j'ai de cette rencontre. Je suis à la fois plein d'espoir, mais très dubitatif également par rapport à certaines étapes qui n'ont pas été respectées et que l'on attend toujours de voir être franchies.
Justement, Louis Magloire Kemayou, parce que vous vous demandez où est l'Union africaine, n'est-ce pas, dans tout ceci, à votre avis, qu'est-ce qui peut signifier le fait que le ministre angolais des Affaires étrangères s'est dit surpris par la rencontre des deux présidents à Doha? Certes, il dit saluer tous les efforts de résolution de conflits dans l'Est de la RDC, mais insiste sur la nécessité des solutions africaines aux problèmes africains. Comment vous comprenez cela?
Je crois qu'il est un peu fâché du fait que l'Angola ait été interrompu dans l'élan qui était le sien, puisqu'il avait demandé à ce qu'il y ait un dialogue avec le M23 et qu'il espérait que cela se fasse. Non seulement il y a eu une fin de non-recevoir de la part du M23, mais c'est le Qatar qui obtient la rencontre entre les deux pays. Donc, quelque part, il faut comprendre qu'il y a une espèce de frustration de la part de l'Angola et notamment, et que cette frustration soit exprimée par son ministre des Affaires étrangères. Mais de l'autre côté, le Qatar a pris quand même des précautions en expliquant que c'est pas un cadre de négociation nouveau qui est créé. Ce cadre est en prolongement des négociations qui se font au sein de l'EAC et de la SADC.
Merci. Eric Bouamba, vous êtes fondateur et responsable du magazine Grand Journal Intelligent. Doha peut-être à mesure de vider Luanda de toute sa substance?
Moi, je pense que, à mon humble avis, le président Paul Kagame est en train de conduire subtilement, de jouer subtilement sur les différents fronts diplomatiques et militaires. Puisque n'oublions pas que Paul Kagame semble avoir fini le job qui lui a été confié par les multinationales mondialistes et globalistes, qui sont en quête de ressources, de métaux rares et d'autres ressources stratégiques dans le Grand Kivu. Et maintenant, il joue sur le plan diplomatique. C'est dans cette perspective-là que il a essayé d'unifier la SADC et l'AIC, puisque la SADC et l'AIC, les deux organisations sous-régionales qui ont reçu la mission de la part de l'Union africaine, avaient émis des sons discordants. Donc, Paul Kagame, sachant que la SADC est plus forte, plus puissante que l'AIC, il a essayé de jouer en utilisant le président kényan, qui est le président de l'AIC, pour obtenir du président de la SADC des sommets conjoints. Et quand vous regardez la feuille de route, la résolution qui a été prise par les sommets conjoints, c'est dans l'intérêt de Paul Kagame. Ayant fini sur ce terrain-là, comme il n'a pas confiance au président angolais, il a tenté d'abord d'obtenir la médiation de la Turquie, qui n'a pas marché, et moi je pense que c'est lui, Paul Kagame, qui s'est tourné du côté de Doha, puisque quand vous regardez bien du point de vue des intérêts qui sont les intérêts qatari au Rwanda et à RDC, le Qatar a plus d'intérêts au Rwanda. Donc, cette guerre n'est pas en faveur du Qatar et du Rwanda. C'est ainsi que, moi, à mon avis, je pense que Paul Kagame joue au dilatoire. C'est aussi un principe connu par les grands négociateurs, puisque au lendemain de leur rencontre à Doha, le M23 a occupé Wali Kale. Donc, alors que pendant qu'il y avait d'autres tractations, même les résolutions, les sanctions qui sont prises au niveau international, que ce soit par l'Union européenne ou par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou par d'autres partenaires bilatéraux du Rwanda, le M23 a continué à occuper des territoires sur terrain. C'est comme si la stratégie de Paul Kagame maintenant est de faire en sorte que le M23, ayant converti les forces de défense et de sécurité de la RDC en ses propres forces, ayant occupé tous ces territoires, y compris la ville de Goma et de Bukavu. Quand vous regardez tout ça, ça représente, c'est au-delà de 10 millions de personnes, c'est plusieurs pays en Afrique. Donc le M23, qui pourrait peut-être, à mon avis, changer de nom, puisque c'est ça aussi le mode opératoire depuis qu'on a vu le comportement des différents groupes armés qui se créent dans cette sous-région, qui changent de nom pour montrer que non, c'était pas le même groupe qui était sous l'impulsion du Rwanda, etc. Moi, je pense que dans les jours à venir, nous risquons d'assister au Rwanda qui retire discrètement ses troupes, mais qui continue à tirer les ficelles de manière subtile en disant que non, c'est maintenant un mouvement 100% congolais, etc. Donc, pour moi, je n'attends pas vraiment grand-chose de Doha.
Pourtant, vous avez dit que Kagame n'a pas confiance, n'est-ce pas, au président angolais. C'est pourquoi j'ai reviens sur ma question. Est-ce que Doha peut supplanter Luanda?
Doha ne va pas supplanter Luanda, puisque Luanda et Nairobi sont déjà mises en veilleuse par la stratégie de Paul Kagame depuis le moment où il a obtenu le sommet conjoint. Et c'est toujours stratégique, hein. Doha va dire non, écoutez, on s'inscrit dans, on s'inscrit dans la logique de Luanda et de Nairobi, mais l'objectif ici, c'est de gagner du terrain. Puisque quand le M23 ou l'AFC, ou ils vont prendre peut-être un autre nom, va continuer à occuper du terrain, ils seront en position d'imposer leur volonté à Kinshasa.
Merci.
Donc pour moi, c'est tout simplement du délératoire que Paul Kagame est en train de faire en utilisant le Qatar, tout comme demain, peut-être il pourra utiliser un autre pays.
Merci, Louis Magloire Kemayou. Je reviens à vous. Même si la rencontre de Doha n'a pas empêché Eric Mwamba la relever ici, n'a pas empêché la chute de Walikale Centre, qui est un point stratégique, quel pourrait être, selon vous, son mérite, le mérite de Doha?
Le mérite, de mon point de vue de Doha, c'est que les deux chefs d'État ont finalement franchi le seuil de la rencontre. Parce que cela semblait un tabou. On avait l'impression qu'ils ne se parleraient plus jamais. D'ailleurs, il y a eu cette sortie du président Kagame où il s'exprimait sur son homologue congolais avec beaucoup de mépris, en quelque sorte. Et je crois qu'aujourd'hui, on est revenu de cela et qu'on est en train de revenir à quelque chose de beaucoup plus constructif, qui est un premier pas vers un dialogue franc et durable entre les deux leaders.
Merci. On avait annoncé aussi la participation dans cette émission de Madame Aimé Manyong de la société civile de Lualaba, mais elle ne décroche pas son téléphone. Donc on va prendre une petite pause. Chères auditrices et chers auditeurs, l'actualité en RDC est aussi l'actualité musicale. Le 19 mars 1938, naissait à Kinshasa Simon Lutumba Ndomanueno, dit le poète Simaro Lutumba. Donc, le mercredi 19 mars dernier, c'était son anniversaire de naissance. On rappelle que le poète Simaro Lutumba Masia nous a quittés le 30 mars 2019 à Paris, en France, à l'âge de 81 ans. On va écouter l'une de ses nombreuses compositions intitulée Aminata Nazangi Visa dans l'orchestre Ok Jazz. On revient juste après.
Aminata Gengana Kolela Yogu Motema pema bazo musika yokei Hamina tagei Nala na yondenge nini na Brussels Nazali na passeport na somba tike Kasiba imelinga ndeviza Thank you.
Regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons fait un commentaire au sujet de la Journée internationale des forêts célébrée ce vendredi 21 mars. Nous avons également analysé la rencontre à Doha entre le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Participe à cette émission en ligne depuis Melbourne en Australie, Eric Mwamba, il est fondateur et responsable du magazine Grand Journal Intelligent. En ligne également depuis la ville de Lomé, capitale du Togo, Louis Magloire Kemayou, il est journaliste camerounais, il est écrivain et président du Club de l'information africaine. Et elle devait être avec nous, mais elle n'est pas encore là, Madame Aimée Manyong, elle est coordonnatrice générale du réseau pour l'autonomisation de la femme Repas Fancig, elle est chef d'équipe au cadre des concertations de la société civile de la province du Lualaba. Le président français Emmanuel Macron a rencontré mercredi 19 mars à Paris des évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo CENCO ainsi que des pasteurs de l'église du Christ du Congo SCC, initiateur du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des consultations que mènent ces leaders religieux auprès des acteurs sociopolitiques nationaux et internationaux sur ce pacte social, a déclaré à Radio Capi Monseigneur Donatien Chaud, le secrétaire général de la CENCO. La France n'est pas n'importe quel pays dans le cadre des Nations Unies et de la diplomatie internationale. Voilà pourquoi nous avons pensé à expliquer et à demander le soutien du président Emmanuel Macron. En tout cas, il nous a écoutés attentivement, il a partagé nos analyses et il est d'accord avec nous par rapport aux perspectives présentées dans le guide du pacte social et il promet son soutien dans la mesure du possible à rapporter Mgr Chollet. Ce soutien de la France au pacte social pour la paix porté par la CENCO et les CC, a été confirmé par Emmanuel Macron lui-même sur son compte X. J'ai reçu une délégation des églises congolaises engagées dans la paix en RDC. J'appuie pleinement leur initiative pour dépasser la crise actuelle à l'est du pays et permettre le rétablissement de la souveraineté congolaise. La France soutient le dialogue. Fort de ces nouveaux soutiens, après notamment celui des quelques chefs d'État et personnalités politiques africaines, les membres du pacte social pour la paix lancent c'est un appel à la rébellion du M23 AFC, soutenu par le Rwanda, à revenir à la table des négociations. Après les rendez-vous manqués de Rwanda pour des négociations directes entre Kinshasa et les rebelles. Eric Mwamba, depuis qu'ils ont commencé leurs consultations, les évêques sont reçus par les grandes personnalités, aussi bien sur les continents qu'en Europe, mais leur démarche est diversement appréciée sur le plan national. Est-ce que ce n'est pas ça, finalement, les défis que les évêques doivent relever, l'acceptation et l'appropriation par tous les Congolais de cette démarche, Eric Mwamba?
Oui,
Exactement, Guy Maté, moi je constate qu'il y a une véritable fracture entre les évêques de la CENCO et les pasteurs de l'ECC et la population congolaise. Il y a également la même fracture, hein, à mon point de vue, au niveau des différentes capitales occidentales ou africaines où ils sont passés. Déjà, ils se sont rendus à Goma. Goma venait de tomber entre les mains du M23 avec autant de morts qu'il y avait eu là-bas. Malheureusement, la délégation des évêques de la CENCO et l'ECC, ils se sont rendus là-bas. Ils n'ont pas rencontré la population qui souffre. Et même l'église catholique est une église mondiale. Quand ils sont allés, par exemple, à Kigali, rencontrer le président Paul Kagame, on aurait pensé qu'ils puissent aussi rencontrer leurs homologues rwandais, aussi peut-être les fidèles catholiques, puisque quand il y a des problèmes entre le Rwanda et la RDC, de part et d'autre de la frontière, les deux peuples frères vivent les affres de cette guerre de la même manière. Parce que très souvent, lorsqu'on ferme la frontière entre Goma et Kisenyi, le Rwandais et tout comme les Congolais qui vivent souvent en bonne intelligence, qui se sont mariés ensemble, qui font les affaires ensemble, réclament que la frontière soit réouverte et qu'ils continuent à vivre en bonne intelligence comme d'habitude. Et je note que même au niveau de la France, l'Église catholique, comme je le disais, étant une Église mondiale, les évêques pourraient aussi rencontrer les évêques français ou les catholiques français. Question d'immerger dans l'opinion publique, puisque les dirigeants occidentaux, parce que c'était aussi le cas quand ils sont allés à Bruxelles, les dirigeants occidentaux écoutent leurs opinions publiques. Donc, ce qui fait que la démarche des évêques et des pasteurs est considéré comme étant une démarche politicienne ou populiste ou une démarche qui cache un agenda inavoué. C'est ce qui fait que beaucoup de gens se méfient un peu.
Louis Magloire Kemayou, comment vous analysez cette démarche qui a commencé depuis quelques semaines, initiée par les évêques de l'Église catholique protestante?
J'ai suivi la démarche des évêques. J'estime qu'aucune démarche n'est en trop dans la recherche de la paix. On ne peut pas laisser aux politiciens seuls le soin de gérer la vie publique. Surtout que là, ça fait plusieurs années qu'ils ont agi et qu'on n'a pas eu de résultats. Donc si les évêques, si la société civile et toutes les autres composantes de la nation peuvent prendre part à l'effort de paix, cela ne peut être qu'accueilli avec beaucoup de joie. Mais je pense qu'il y a un défaut dans cette démarche, et c'est mon prédécesseur qui l'a dit avec beaucoup de justesse, c'est que l'on a l'impression que c'est une démarche politisée, et que une fois que les évêques prennent position, cela peut biaiser l'interprétation que l'on a de leur implication dans la recherche de la paix. Et c'est ça qui est malheureusement dommage, parce que ce n'est pas la première fois. On a déjà vu pendant la conférence nationale comment cela s'était passé, on a vu également un peu plus tard, quand il y a eu des problèmes au niveau de la publication des résultats, qu'il y avait également eu une interprétation très politique et politicienne, malheureusement, de l'implication des hommes d'Église. Et donc, ce qu'on peut attendre d'eux aujourd'hui, c'est qu'ils nous apportent une vue beaucoup plus généreuse, qu'ils n'essaient pas de remplacer César, mais qu'ils apportent la bonne parole et qu'ils essaient de rassembler au maximum autour d'eux.
Oui, et là, on voit beaucoup d'initiatives, Louis Magloire Kemayou. Comment peut-on concilier cette dynamique interne prônée par les évêques et toutes les dynamiques régionales et internationales?
Je pense que la première démarche de la part des évêques devrait être d'agir sur la partie qui les concerne, c'est-à-dire leurs joyeux. Arriver à faire en sorte que chacun des croyants, chacun des convertis qui vient dans leurs églises, qu'elles soient catholiques, qu'elles soient protestantes, peu importe l'obédience, comprennent que le plus important ici, c'est le Congo. Parce que un peu comme un bateau qui est en pleine mer, tant qu'il est intègre, tant qu'il n'y a pas de fissure, il ne se noie pas. Mais dès lors qu'il y a la moindre fissure, comme pour le Titanic, c'est la catastrophe. Et je crois que ça devrait être le discours des hommes d'Église aujourd'hui pour rassembler et surtout être efficace dans la recherche de la paix.
Merci. On prend une petite pause en écoutant Chiquitita avec Abba. Et on se retrouve juste après.
Chiquitita, tell me what's wrong. You're in shame by your own sorrow. I hate to see you like this. There is no way you can deny it. I can see that you're all so sad and quiet. Chiquitita, tell me the truth. I'm sure that you your best friend, I'm the one you must rely on. You were always sure of yourself. Now I see you broken again.
Sky and shine.
C'était Chiquitita, c'est classique du groupe musical suédois ABBA. L'orchestre ABBA a fait parler de lui pendant la décennie 70 et 80. Je rappelle que nous avons dans cette émission en ligne depuis Melbourne, en Australie, Eric Mwamba, il est fondateur et responsable du magazine Grand Journal Intelligent. Et en ligne également depuis la ville de Lomé, capitale du Togo, lui Magloire Kemayou, il est journaliste camerounais, il est écrivain et président du Club de l'information africaine. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a rencontré 1000 jeunes recrues, dont 26 filles, jeudi 6 mars au centre d'entraînement de Tombagadio au Congo central. Elle a promis d'améliorer les conditions de vie des militaires et policiers. Nous nous engageons à augmenter la solde des militaires et à veiller à ce que les nouvelles recrues bénéficient des meilleures conditions. Vous avez choisi de servir la nation et nous devons en retour honorer cet engagement, a affirmé la chef du gouvernement, rassurant les nouvelles recrues. Le dimanche 16 mars, la chef du gouvernement est arrivée à Bandundu. Elle a été chaleureusement reçue par les autorités politico-administratives et une foule en liesse venue nombreuse pour la circonstance. Aussitôt arrivée, elle a tenu un meeting à la tribune des camps Onaka. S'adressant au public, Judith Suminwa Tuluka a appelé surtout les jeunes volontaires à s'enrôler massivement dans l'armée afin de défendre l'intégrité territoriale du pays contre l'agression rwandaise et ses alliés du M23 AFC dans l'est du pays. À l'occasion, la chef de gouvernement congolais a aussi annoncé le doublement de la solde des militaires et policiers dès la prochaine paye, ainsi que l'amélioration des conditions des forces de défense. Eric Mwamba, vous avez choisi de nous parler de ce sujet en le formulant ainsi. Rôle des citoyens dans la crise de l'Est, timide mobilisation des populations par le gouvernement de Mme Judith Suminwa. On vous écoute.
Avant d'entrer dans le vif de ce sujet, j'aimerais appuyer Louis Magloire Kemayo qui a constaté que le président de la République, Félix Tshisekedi, n'a pas véritablement mobilisé au sein de la classe politique. Puisqu'on constate même qu'au sein même de sa famille politique, l'Union sacrée de la nation, on constate une certaine frilosité où les ténors n'arrivent pas à mobiliser ni à prendre position par rapport à cette situation dramatique qui déchire l'Est de la RDC. Moi, je constate malheureusement qu'il y a une véritable fracture entre le gouvernement congolais et la population. Madame Judith Suminwa peine à mobiliser, puisque vous avez mentionné 1000 personnes et quelques groupes, ça et là. Et pourtant, par exemple, quand on regarde à Kinshasa, où il y a la concentration de millions de personnes, même la campagne Congo Telema a été lancée dans des salles, alors que on est habitué à Kinshasa à avoir des grandes mobilisations fleuves, donc qu'on appelle à Tchango, par exemple, qu'on appelle Chine populaire. C'est là où même la population congolaise, notamment les jeunes, ont stoppé l'élan des Rwandais lors de la deuxième guerre du 2 août 1998. Puis, je constate aussi que le gouvernement ne travaille pas avec des leaders d'opinion, puisque le gouvernement a quand même un cadre institutionnel à travers les organes gouvernementaux et la diplomatie. Donc, il n'appartient pas forcément à la première ministre et au ministre de descendre sur le terrain. Ils pouvaient travailler en coordination avec les leaders d'opinion pour qu'ils puissent descendre et mobiliser la population sur le terrain, ce qui n'est pas le cas à mon sens.
Oui, Eric Mwamba, est-ce que les membres du gouvernement n'ont pas été conditionnés par le discours du chef de l'État lors d'un conseil des ministres? On se rappelle que le chef de l'État avait fustiger le fait que beaucoup des ministres ne s'impliquaient pas assez dans la lutte contre l'agression de notre pays et avaient estimé qu'il y avait certains ministres qui étaient sur le terrain en train de mobiliser la population. Et donc pour lui, il fallait que les membres du gouvernement puissent descendre aussi sur le terrain. Est-ce que ce n'est pas ça, ce discours du chef de l'État qui avait poussé tous les ministres ainsi que la première ministre, n'est-ce pas, à prendre l'initiative d'aller sur le terrain en train de mobiliser la population?
Effectivement, c'est à cause de cette interpellation du président de la République que certains sont descendus sur le terrain et là on constate qu'il y a une certaine discordance au niveau du narratif. Hein. Et pourtant, pour moi, je pense que le gouvernement devrait laisser cette tâche aux leaders d'opinion. La société civile est très forte et très bien organisée au niveau du Congo. Je disais aussi que la population congolaise a toujours joué un rôle important à chaque tournant décisif du pays, comme c'était le cas en janvier 59 ou le 16 février 92 ou même récemment le 28 janvier, ce qui a permis d'ailleurs les marches qu'il y a eu à travers le pays, notamment à Kinshasa et à travers toute la diaspora, qui a permis d'obtenir la résolution, donc une dépression. Donc moi je pense que le gouvernement ne fait pas assez ou fait mal ce qu'il devrait faire en ce qui concerne la mobilisation de la population.
Merci Louis Magloire Kemayou. Quel est votre point de vue par rapport à cette problématique des mobilisations de l'opinion tant politique que publique?
Non, je crois que mobiliser la population c'est le premier réflexe, parce que si la population ne vous suit pas, vous n'êtes capable de rien, que ce soit en termes de mobilisation physique, que ce soit la mobilisation en rejoignant les rangs de l'armée, ou que ce soit par rapport à des contributions financières et matérielles. On a besoin de la population. Et en plus, le mandat que ces personnes ont reçu pour diriger le pays vient des populations. Donc le minimum serait que l'on implique la population en lui expliquant clairement quels sont les enjeux. Et l'enjeu le plus important ici, c'est la paix dans le pays, c'est la grandeur et la stabilité de la RD Congo.
Et donc, quand vous voyez tous les gouvernements descendre sur le terrain en train de mobiliser la population, vous estimez que ce n'est pas assez?
Non, parce que on est dans quelque chose de très solitaire. Je crois que cela aurait dû venir d'abord d'une action du chef de l'État qui montre qu'il est en train de rassembler autour de lui les leaders politiques. C'est-à-dire que tous les partis politiques qui sont actifs sur la scène, leurs leaders devraient être reçus par le président de la République. C'est le minimum. La deuxième étape, c'est que une fois que l'on a fait cela et qu'on a expliqué aux populations que la rencontre a eu lieu et que maintenant la bataille est dans son camp, je pense qu'elle suivra beaucoup plus logiquement que si on était dans cette démarche-là où on a l'impression que le chef de l'État hésite par moment il va rencontrer la population, par moment il délègue la rencontre de la population à d'autres personnes. Ça a l'air cafouillis et ça a l'air surtout de procéder d'une improvisation qui ne rend pas service à la démarche.
Merci Eric Mwamba, on va finir cette émission avec vous. Et à votre avis, si la population est mobilisée comme vous le souhaitez aujourd'hui, vous pensez que ça peut avoir quel impact sur le terrain? Est-ce que ça peut changer la donne, ça peut modifier les rapports des forces sur le terrain?
Oui, absolument, ça va modifier le rapport des forces sur le terrain, parce que si on compare ce qui s'est passé en 97, en 96-97, par exemple, quand toujours le même Rwanda accompagnait les troupes de l'AFDL sur le terrain, là, il y avait l'adhésion de la population, ce qui leur a permis de progresser facilement. Mais en 98, lorsqu'ils ont essayé de rééditer leur exploit, là, comme Louis Magloire Kemayou l'a dit, on a vu le président de l'époque, Laurent Désiré Kabila, qui s'est tenu debout, qui a mobilisé la population, et les Rwandais ont eu des difficultés, par exemple, à prendre la ville de Kinshasa. Et dans la situation actuelle, par exemple, je pense que, d'ailleurs, comme Louis Magloire l'a dit aussi, la mobilisation de la classe politique, puisque pour moi, je considère que des leaders qui ne sont pas dans les institutions gouvernementales, par exemple, les leaders de l'opposition, s'ils sont mobilisés par le président de la République autour de l'enjeu de la paix, par exemple, pour barrer la route, puisque nous sommes quand même dans un processus démocratique. Il faut noter que la RDC est parmi les rares pays de la sous-région à être dans un processus démocratique avec l'alternance qui a commencé en 2019. Le président Tshisekedi avait le droit au terme de la Constitution de se représenter. Il s'est représenté. Il ne faut pas que les groupes rebelles soutenus par une armée étrangère d'un pays voisin viennent perturber ces processus démocratiques. Là, c'est important que si le président de la République mobilise les leaders autres qui ne sont pas, par exemple, dans les institutions, et que ces leaders qui sont aussi bien écoutés et qui sont suivis par leurs adhérents sur le terrain, là on va abandonner d'abord les divergences politiques et idéologiques pour se mettre autour du Congo et renverser le rapport de force sur le terrain. C'est la seule chose qu'on devrait faire. Par exemple, vous voyez que la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies peine à être appliquée, tout simplement, puisqu'il n'y a pas cette mobilisation sur le terrain.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Louis Magloire Kemayou et Eric Mwamba. Merci aussi à Polydor Basunga qui est à la technique avec la participation de Christian Lomombe, DJ Dadi et d'Hervé Voka sous la supervision de Martin Sebujangwe. À la présentation, Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Kapi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 21h, heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiokapi.net. On se sépare avec Mamba, cette autre composition du poète Lutumba Simaro Massia, toujours à l'occasion de la commémoration de sa date de naissance, le 19 mars. On écoute donc Mamba et on se retrouve le samedi prochain.
Oh, c'est la qui s'en a n'y gagné, pour y go la qui s'en a n'y n'a pas placé. Thank you.